Il a joué 96 matchs avec le Paris Saint-Germain, inscrit 4 buts et remporté une Coupe de France. Cette semaine, nous recevons le solide défenseur rouge et bleu, Sami Traoré. Sami Traoré, bonjour, bienvenue dans Histoire de Parisiens. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre tout premier souvenir du Paris Saint-Germain, d'un maillot, d'un logo?
C'était chez les jeunes. Chez les jeunes, on jouait contre le Paris Saint-Germain, justement, avec mon premier club, la SPTT de Paris. Et ce qui m'avait marqué, c'était la classe qu'ils avaient. Contrairement à nous, qui étions défroqués, on va dire, dans bien grands mots. Ils avaient cette classe de tous habillés pareil, survêtements du club. Et quand tu vois,
Le grand club,
quand tu vois les petits déjà arriver avec le logo de la Tour Eiffel, du Paris Saint-Germain, déjà, ça fait mal, déjà. Parce que tu sais déjà que c'est une belle équipe, c'est les meilleurs de la région. Et quand ils arrivent, ils sont tous beaux. Tous beaux. Les belles chaussures. Pas une chaussure trouée. Nous, les chaussures, il fallait les nettoyer avant. Eux, leurs chaussures, étaient belles. Et quand tu les vois s'habiller et ils sont à l'échauffement, t'as toujours ce petit jeune qui se prend déjà pour Ginola. Qui veut ressembler à Ginola, donc dans sa coupe, tu vois, dans sa dégaine, il lui ressemble. L'autre qui se prend pour un tel. Et forcément, ils ont des références au-dessus. Ouais. Donc forcément, ils s'identifient. Nous, on n'a pas de référence, nous. Donc tu vois, c'est ce premier rapport-là au Paris Saint-Germain qui m'a marqué, comme quoi c'était...
De l'admiration.
L'admiration, ouais.
Tu as commencé ta carrière assez tard, c'est un parcours atypique dans le football. Alors encore plus, ça serait quasiment impossible aujourd'hui, parce que quand tu quittes Créteil pour jouer en Ligue 1 pour la première fois, tu pars à Nice et tu as 26 ans. Ouais. Tu es déjà père de famille. Ça paraît inouï de devenir, entre guillemets, pro en Ligue 1 aussi tard. Parce que tu étais pro à Créteil, mais pro en Ligue 1.
Ouais, après... J'avais eu quelques sollicitations, mais ça ne s'était pas fait à l'étranger, en étant à Créteil. Après, Créteil, c'était un club aussi qui voulait garder ses jeunes. Mm-hmm. Donc, quand il y avait des sollicitations de clubs un peu plus huppés, ils essayaient de les cacher un petit peu. Donc, peut-être qu'il y a eu des sollicitations à 18 ans ou 19, mais après, on a commencé à Créteil, on a signé pro à Créteil, on a fait peut-être 2-3 ans de Ligue 2. Et après, j'ai connu Guernot à Créteil, qui est parti après à Nice et qui m'a fait venir dans ses valises allemandes.
Mais quand tu étais petit, c'était un rêve le football ou c'était juste pour jouer? Tu te disais dans ta tête, je vais devenir pro?
Non, tous ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours dit qu'elle est professionnelle. Mm-hmm. Après, je suis parti avec des lacunes forcément, je n'ai pas fait de centre de formation. J'ai pris ma première licence à l'ASPTT de Paris, j'avais 12 ans. Donc en pupille déjà, j'ai pas connu tout ce qui est
les tout petits,
la formation, on apprend à faire des passes. Mm-hmm. Donc j'ai dû me faire tout seul. Après, STPTT de Paris Créteil, j'ai pas fait de centre de formation. Donc on a fait sa formation.
C'est à la dure en fait.
Ouais, pas spécialement à la dure. Les autres ils ont des avantages, c'est d'avoir connu des centres et d'avoir peut-être des entraîneurs un peu peut-être plus qualifié, parce que nous, à Créteil, on partait du bas. Mm-hmm. Donc, on part avec des lacunes, mais on travaille pour les combler. Donc, il n'y a que le travail, de toute façon, qui paye. Hein. Le travail, croire en soi. Puis après, l'aide de Dieu aussi. Dieu fait partie de tout ça aussi.
Quand tu arrives au Paris Saint-Germain, on est en 2006-2007, tu as 30 ans. Mm. Ça se fait comment, ce retour en région parisienne?
Ben, j'avais passé 4 belles années à Nice.
Tu avais marqué 2 beaux buts contre le Paris Saint-Germain en 2005-2006.
Même, j'ai marqué quand j'ai eu les matchs amicaux en début de saison contre eux, j'ai marqué aussi.
Mais c'est un choix qui s'est fait comment?
Non, au départ, j'étais bien à Nice, donc je voulais prolonger à Nice. Après, c'est vrai que quand Paris fait la demande, moi je demande à Nice une prolongation de contrat, ce qu'ils ne voulaient pas forcément, parce qu'il me reste encore un an de contrat. Donc quand je leur dis que c'est le Paris Saint-Germain qui est intéressé, ils commencent à paniquer. Après, forcément, c'est un retour aux sources.
Mais toi, tu te dis quoi quand le Paris Saint-Germain est intéressé? Il y a de l'émotion.
Ben forcément, on est fiers de soi. On se dit, ben, si ça se concrétise, c'est quelque chose de bien. Parce que forcément, quand tu compares les ambitions et le groupe intrinsèque, on ne va pas manquer de respect, mais j'étais plus dans la possibilité d'aller chercher des titres au Paris Saint-Germain qu'avec Nice à l'époque. Et je sortais d'une saison accomplie quand même, donc tu te dis, bon, on fait une bonne saison, et le Paris Saint-Germain qui vient te chercher à la clé, ça confirme que t'as fait quelque chose de correct. Après, il y a une autre étape qui commence, ouais, mais c'est beau.
Quand tu retrouves Paris, tu retrouves la région parisienne, tu retrouves ta famille, tes parents, c'est une pression en plus ou c'est une joie en plus ?
On va dire que c'est une joie, après. De toute façon, forcément, c'est les deux en même temps. Parce qu'il y a tout le monde qui est, il y a toute ta famille qui est là, tes amis, tous tes amis d'enfance, plus les amis qui vont venir se greffer. Donc,
Et tu te souviens de tes parents quand tu leur as dit je reviens à Paris
Ouais, je me souviens. Je l'avais dit à ma mère en premier. Mm-hmm. Elle était contente. Parce que ma mère, déjà, ma mère, elle était mordue de foot. Pour t'expliquer un peu le contexte, ma mère, à Créteil, déjà, venait avec mes maillots dans la tribune. Ouais, elle s'est mordue de foot. Donc...
Alors, fan de foot et fan de son fils,
ouais,
c'est beau.
Ouais. Après, elle est d'origine italienne, donc d'un grand-père, moi, italien, mm-hmm. Luigi Confalonieri, il s'appelait comme ça, il est décédé, paix à son âme. Donc, supporter de la Juventus. Donc déjà là, elle était déjà un peu elle a baigné dans le football. Donc son fils aussi qui fait du football, le grand-père qui était malheureusement décédé. Mais je sais pas si moi consciemment j'ai pas essayé d'aller chercher quelque chose aussi peut-être pour ça aussi.
Ouais.
Et elle était très fière, elle était contente dans la mesure où maintenant elle va retrouver son fils dans la région parisienne avec ses petits enfants. Donc elle est contente, surtout qu'elle va pouvoir aller au Parc des Princes tous les matchs. Donc elle était contente. Ouais.
Et ton père, il le vit comment?
Après,
réservé.
Après c'est le père africain, très réservé, fier forcément, mais sans le montrer.
Mais qu'il le dit pas.
Après, il était très content. J'ai réussi quand même à le ramener au Stade de France, parce qu'on a gagné. J'ai fait quand même 3 Stades de France en tenue traditionnelle, en boubou, on va dire malien, donc une fierté aussi.
Il devait être content.
Ouais,
ça change
content.
Quoi dans la vie d'être un joueur du Paris Saint-Germain?
Ça change beaucoup de choses. Hein. Parce que moi, quand je suis arrivé au Paris Saint-Germain, première conférence de presse, les journalistes me disaient « Tu te rends compte qu'il va y avoir un gros changement quand même entre le Samy de Traoré de Nice et le Samy de Traoré ?» Mais moi, je ne voyais pas ça comme spécialement un changement, puisque moi, je changeais de club, je retournais chez moi.
Mais
c'est vrai que quand tu
continues à faire du foot, quoi.
Je continue à faire du foot. Mais c'est vrai que quand tu prends conscience de l'ampleur du Paris Saint-Germain, avec tous les supporters qu'on a, plus la pression... de résultats, c'est un changement total. Même si à Nice, il y a une pression de résultats, ça n'a rien à voir. Je pouvais me balader à Nice et... Bon, ils savaient un peu qui j'étais, mais je pouvais passer un peu plus tranquillement. Mais à Paris, tu peux pas... Avec tout ce qui est médiatique... Maintenant, c'est encore pire, mais tout ce qui a été médiatisé comme pour le Paris Saint-Germain, tu passes pas inaperçu.
Quand tu arrives, c'est Guy Lacombe, l'entraîneur.
Ouais.
Ça se passe comment, tes débuts, quand tu te blesses assez rapidement?
Ouais, premier au Trophée des Champions.
Le 30 juillet.
Ouais, au Trophée des Champions, à Lyon.
2006.
Ouais.
Et tu te blesses?
Ouais, j'ai taclé John Carew sur un côté.
Fallait pas.
J'ai été taclé. Non, je l'ai bien enfoncé pourtant. Mais j'ai été compensé toutes les erreurs de Jérôme et Sylvain. Donc au bout d'un moment, la cuisse, elle avait lâché. Donc je me blesse. Donc je crois que c'est au moins un mois et demi, et mon retour c'est contre Marseille.
Ah oui,
à domicile, on se fait éclater. C'est la grosse équipe, c'était la belle équipe de Marseille, on perd en même première mi-temps, on fait une sale deuxième. Donc on perd à domicile, donc c'est mon premier match.
Oh.
Donc ça commence
dur,
pas très bien. Ouais.
Non, ça commence pas très bien. Guy Lacombe, il est remercié, c'est Paul Le Guen qui reprend l'équipe.
Ouais.
Ça fait encore un nouveau changement pour toi?
Total, carrément. Ben là, c'est un dépaysagement total, carrément, quand Paul, il arrive. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je jouais un peu la plupart du temps, sous l'air Guy Lacombe.
Ouais.
Et Paul arrive avec d'autres perspectives. Donc, dès que Paul arrive, je ne suis pas dans le groupe sur sa première convocation.
D'accord.
Après, je crois, sur la deuxième, je ne suis pas dans le groupe non plus.
Et là, tu te dis...
Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je crois que c'est un match cumulé, carrément. On joue le samedi, le mardi ou le mercredi. Mais je crois non, je ne sais plus c'est quel déplacement, mais après, derrière, c'est Marseille.
Aïe.
Donc je suis pas pris sur on va dire 2 semaines, ça fait 3 matchs. Donc au bout d'un moment,
j'ai
toqué dans le bureau pour avoir d'explications gentiment. J'ai dit, excusez-moi monsieur Le Guen, soit il y a un problème avec moi, faut m'expliquer parce que moi je sais pas, je jouais, puis là je joue plus du tout. Il y a entre ne plus jouer et plus être dans le groupe, il y a une différence totale quand même. Donc je sais pas, peut-être...
Juste me dire.
Me dire. Oui, tu sais comment elle est, Paul. Expliquer. Oui, bon, je pense qu'il y a meilleur que toi à ton poste, mais je fais des choix, on demande à mes consciences. Oui, aucun problème, mais au bout d'un moment, si la concurrence est saine, moi je peux rester là et me battre comme tout le monde pour vous prouver que peut-être j'ai des qualités pour jouer. Après, si vous me dites que les dés sont pipés, j'irai voir ailleurs. Mm. Non, j'ai besoin de toi, j'aurai besoin de toi dans la saison. Non, mais là, on part loin, là, dans la saison. C'est peut-être le dernier match de championnat, donc si c'est ça, moi je préfère partir en prêt. Je lui dis, donc je préfère partir en prêt, au moins j'aurai du temps de jeu, et puis voilà. Tu restes à disposition de l'effectif. Non, il faut que je parte en prêt. Hein.
Bah, 2006-2007, tu fais la saison de Paris Saint-Germain, d'ailleurs.
Ouais,
c'est une saison qui est...
Il arrive les 6 derniers mois, c'est ça, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais.
Mais c'est une saison qui est importante aussi pour toi, parce que tu joues l'Europe. Mmh. Tu marques même contre l'AEK Athènes. Mmh.
Ouais,
c'est quand même des émotions particulières, ça.
Ouais, bah déjà de jouer l'Europe, déjà...
Déjà, je retrouve le sourire sur ton visage quand on parle de ça.
Bah ouais, parce que déjà, de jouer l'Europe avec Paris, c'était... quand tu viens à Paris, c'est pour jouer l'Europe, hein, c'est pas pour jouer le maintien, forcément. J'avais connu déjà ce petit parfum d'Intertoto avec Nice, donc je me suis dit, ça doit être pas mal. Donc ouais, c'était intéressant. Après, comme tu dis, je marque aussi à Athènes. Bernard qui suit dans la foulée, c'est Bernard Mendy qui met le deuxième. Bernard qui marque aussi. Donc ouais, ça reste des beaux souvenirs. En plus, c'était le maillot avec toutes ces petites tours Eiffel qu'on avait à l'époque, marron et blanc. Mm-hmm. Très beau maillot. Et ouais, ça reste un très beau souvenir.
C'est marrant comme tu as des images comme ça, le maillot, tu sais qui a marqué.
J'ai une très bonne mémoire.
Je vois ça. Je vois ça. Donc cette saison-là, vous finissez 15e juste devant Nice.
Ouais.
C'est juste devant eux. On est loin des standards du Paris Saint-Germain. Tu te dis, je suis vraiment venu pour ça. Non seulement en deuxième partie de saison, tu joues pas beaucoup, mais en plus, le Paris Saint-Germain finit 15e.
Ouais, après, je savais quand même qu'on avait un groupe quand même de qualité.
D'accord.
Après, ça tenait qu'à nous de faire les efforts. C'est vrai qu'il y avait des belles cylindrées aussi. Mais je savais qu'on avait un groupe de qualité. Après, c'était à nous de faire les efforts ensemble. Parce que moi, en fait, quand je pars de Nice et j'arrive à Paris Saint-Germain, quand je pars de Nice, je quitte un vrai groupe. Un vrai groupe
une famille.
Un vrai groupe de joueurs qui sont toujours battus ensemble, avec moins de moyens, forcément. Mm-hmm. Et là, tu arrives dans un groupe où c'est plus difficile. C'est une grosse machine, voilà. Donc, il y a plus de petits clans. Ça reste une équipe, hein. Attention, ça se bat ensemble, mais tu sens que c'est pas encore fédéré vraiment pour aller chercher des choses. Et c'est... Moi qui aime bien vivre dans ces ambiances de famille, on essaye toujours de réunir. Mais après, à Paris, il y a beaucoup de... C'est difficile.
Ça, c'est le fait de venir d'une famille nombreuse.
Bah ouais, sûrement, étant premier d'une famille de maintenant, ça a grandi, donc on doit être au moins 18. Ouais, c'est peut-être ce côté un peu fédérateur et grand frère.
Et cette première saison, on a vu combien elle était difficile. Alors, j'aimerais revenir sur cette image de toi. C'est un match face à Rennes, à Rennes. On est en mars 2007, donc ta toute première saison. Donc, il avait raison, Paul Le Guen, il allait avoir besoin de toi, mais tu te donnes tellement sur le terrain que tu finis le visage en sang, la tête bandée.
Ouais, bah après, c'est peut-être ce qu'on demande comme sacrifice.
Le don de soi.
Le don de soi et d'amour du maillot, forcément. Après, moi, j'ai toujours été un joueur...
Généreux,
dans le combat. Après, je pense qu'il en faut aussi. Pour gagner des matchs importants, pour gagner des titres, il en faut. Quand tu regardes Sergio Ramos, il n'a pas toujours été beau. Pépé, il n'a pas toujours été beau. Et ça fait partie peut-être des meilleurs défenseurs qui sont passés. Mm-hmm. Donc, non. Je pense qu'on perdait 1-0. On perdait 1-0, il fallait égaliser. J'ai même pris un carton jaune tellement j'étais pressé de rentrer sur le terrain en sang. Après, ouais, c'était une blessure qui saignait un petit peu sur un coup franc ou un corner. Je mets une tête sur la barre, donc là, ça se rouvre, ça saigne encore plus. Mais tellement t'es dans le match, tu sens pas spécialement
la douleur.
Après, j'ai la cicatrice, je suis même plus, je crois que je l'ai encore carrément. Ouais, carrément d'être par là, carrément. D'être par ici. Mais tellement t'es dans le match, tu fais pas attention. Ces petites douleurs, tu les ressens à la fin et le lendemain surtout. Mmh. Et de toute façon, j'ai donné tellement de ma peau pour le foot, mes arcades, mes genoux.
Oui, il y a des petites cicatrices. Ouais, le visage est marqué.
On va dire que c'est pour le boulot, comme il a dit le petit jeune. C'est pour le boulot. Alors, il est bien fait.
À l'intersaison, tu sens quand même que ça va être compliqué. Donc, tu pars en prêt.
Je demande à partir en prêt à Monsieur Le Guen Polo. Mais il n'était pas d'accord.
Toujours pas.
Non, c'est pour ça. Je demande, excusez-moi, est-ce que je pourrais partir en prêt au moins pour avoir du temps de jeu? Et là, il n'était pas d'accord. C'est là que je dis, non, je vais avoir besoin de toi. Oui. Mm-hmm. D'accord, Paul, je sais, peut-être, mais moi, j'aimerais bien jouer au foot à 30 ans, comme 31 ans.
Oui, je vais avoir 31 ans.
Je me rapproche un peu de la fin. J'aimerais bien continuer à jouer au foot un petit peu, s'il te plaît. Donc, il me permet de partir à Auxerre.
Mm-hmm.
Il m'a dit, bon, ok. Mais par contre, tu es prêté sans option d'achat. On y va sans option d'achat, si tu veux. Mais moi, il faut que je joue.
Donc, parce que sans option d'achat, ça veut dire que tu reviens.
Ça veut dire que je reviens. Donc je dis, ok, moi, du moment que je suis prêté, j'ai du temps de jeu. Le temps de jeu, ça sera à moi de me le créer, mais forcément. Mais moi, j'ai du temps de jeu, et ben, ça me convient. Ok, je suis parti sur un an. Mais en fait, c'est l'année la plus difficile qu'ils ont passée.
En ton absence, le Paris Saint-Germain a failli être relégué. Alors, je reviens justement. La saison est très compliquée pour le PSG. Parmi les derniers matchs, il y a un match face à Auxerre.
Ouais. En plus, s'ils le perdent, ils sont pas bien. Tu vas les retrouver si... dans la logique.
Oui.
Dans la logique. Tu vas les retrouver. Mais là, si tu les appuies, comment ça se passe? Tu les retrouves en D2 ou tu les retrouves en D1? Quand je les joue, je crois qu'on a... On n'est pas loin. Ils sont pas loin d'eux. Ils sont pas loin derrière. Ou sont juste devant. Mais si on les tape, c'est dangereux pour eux. Je crois qu'il reste 3-4 journées derrière. Donc moi, j'étais blessé une semaine ou deux semaines avant. Et Jean Fernandez, il me dit, comment tu te sens? Il m'appelait patron. Je lui dis, ça va. Il me dit, la cuisse. Je lui dis, ça va. Il me dit, mais est-ce que tu es sûr de jouer à 100%? Moi, je lui dis, je suis sûr d'être à 100%. Déjà, moralement, t'es sûr?
Ah bah,
je suis sûr.
Ouais.
Je lui dis, je suis sûr. Parce que je joue contre mon ancien club, c'est vrai. C'est pas moi qui les ai mis dans cette situation-là. Au bout d'un moment, moi, je joue pour Auxerre aussi. Nous, on a des points à prendre. Moi, je suis là pour prendre des points. Maintenant, il advienne ce que pourra. Si se passera, ça se passera. Malheureusement, moi, ce jour-là, je joue quoi? Je joue avec un bandage. C'est vrai, j'avais mal à la cuisse. On joue, on essaie de faire notre match, on perd 3-1, hein, on perd bien 3-1, hein, ouais. Et c'est qu'après que moi je commence à entendre, t'as pas levé le pied. Et comment j'aurais pu lever le pied? C'est inconcevable, en tant que compétiteur, tu peux pas lever le pied. Et après, de toute façon, ils avaient pas besoin de moi pour sauver, la preuve, ils ont été sauvés.
Tu reviens? Il y a eu un gros recrutement pour la saison 2008-2009, je pense à Julie, ouais. Makelele. Bon, il y a eu quelques départs quand même importants. Et quand tu reviens, toi, tu te dis, c'est bon, je vais avoir du temps de jeu, je fais une belle saison à Auxerre.
Non, de toute façon, quand moi je reviens, tu sais pertinemment qu'ils vont ramener, il y a de la concurrence et qu'ils vont te ramener encore de la concurrence. Moi, je sais pertinemment comment ça va se passer. Ils vont écrire au début de saison l'équipe type, ou le Parisien va écrire l'équipe type du Paris Saint-Germain de la saison. Traoré ne va pas être dedans. Mais Traoré va faire minimum ses 25 matchs de la saison.
Mais oui.
Tu regardes sur chaque saison, j'ai fait mes matchs, à peu près mes 25 matchs, donc la moitié d'une saison minimum, en partant pas titulaire. Donc forcément, au bout d'un moment, c'est peut-être le mec qui n'a pas été considéré à sa juste valeur. Mais ça, c'est
important parce que je trouve que ça définit un petit peu ta carrière, en fait. Tu t'es jamais laissé faire. Enfin, pas laissé faire, mais en tout cas, tu n'as jamais baissé les bras.
Mais la vie, c'est ce que la vie demande. Mais si j'avais baissé les bras dès le départ, je n'aurais jamais été footballeur. Bon, les mecs qui me connaissent, comme je te dis, ils savent. Le jour où j'ai demandé la première licence à mon père, bon, comme je t'ai dit, mon père, c'est un immigré malien qui arrive du Mali, et pas de papier, il arrive à travailler pour la ville de Créteil. Il a été 45 ans balayeur à la ville de Créteil. Par contre, le coup de balai, moi, c'est héréditaire, peut-être j'ai un coup de balai, tac. Donc tu vois, il a rencontré une femme, il a fait une famille, il a tout donné, il a fait des enfants, il a payé ses impôts, il a travaillé pour toute cette société française. Maintenant qu'il est paré, qu'il est à la retraite, il est reparti au Mali. Tant mieux.
Oui, bien sûr.
Tant mieux pour lui. Chacun sa vie. Forcément, c'est un exemple de combativité et de réussite. Quelle que soit la réussite sportive ou de haut niveau, c'est une réussite de vie.
Oui.
Donc forcément, tu t'inspires de ça. Moi, je me suis inspiré de ça, sachant que moi, je venais, on va dire, de Créteil, quartier difficile, ce que les gens appellent difficile. La vie, c'est toi qui te la rends difficile. Si tu veux qu'elle soit belle, elle sera belle. Donc, j'ai connu des gens, c'était plus difficile pour eux. Moi, j'ai fait des choix d'aller chercher quelque chose. Je me suis toujours battu pour aller chercher ces choses-là. Comme je t'expliquais, je leur ai toujours dit que je serais footballeur professionnel. Jusqu'à une de mes profs, elle m'a dit quoi? Mais tu vas faire quoi dans ta vie, monsieur Traoré? Vous êtes là, vous faites des bêtises dans la classe, à ne pas suivre. Je serai footballeur professionnel, madame. Toute la classe a rigolé.
Ouais.
Juste que cette prof-là, je l'ai revue. Elle m'a dit, mais...
Tu te souviens que...
Tu te souviens de ce que je t'avais dit? Elle m'a dit, mais t'as eu raison. Je lui ai dit, ben voilà. Il y a des gens qui ont plus de facilité, il y a des gens qui sont...
Qui ont la combativité.
C'est on est entouré de ça, de toute façon.
Et donc, quand tu reviens, tu te dis, je vais me battre, je vais...
Bah, je vais me battre pour jouer, comme d'habitude. Et je vais jouer, de toute façon.
Mais alors, ce qui est dingue, c'est que... Et là, tu le dis avec le sourire aussi, et on a l'impression que t'étais pas un élément, j'allais dire, un élément perturbateur du vestiaire. On a l'impression que t'es venu avec ta joie de vivre. C'est dur, c'est pas grave, je garde la joie de vivre. Ou alors tu semais la zizanie, je sais
non,
pas.
Non, d'après, si tu entends les échos...
On parle plutôt de ta joie de vivre.
On parle plutôt de quelqu'un de respectueux, de quelqu'un qui aime bien, qui a une joie de vivre. Après, comme je t'ai dit, beaucoup de journalistes et des supporters me disaient, mais comme tu viens de le dire des fois, ils me disaient, mais ça fait un mois que tu joues pas, mais tu gardes le sourire. Mais je suis footballeur professionnel.
Ouais.
Je viens, je m'entraîne, je me dépense, j'essaye de progresser, d'aider mon club, d'aider mon équipe. Mais à côté de ça, je suis footballeur. Mon père, il se lève à 7h du matin, il va balayer toute une ville. Comment tu veux que je ne sois pas heureux de faire? Déjà, premièrement, tu es un privilégié dans ce bas monde où tu vis de ce que tu aimes.
De ta passion.
Alors le musicien, il doit se régaler aussi, il fait de la musique, il vit de sa passion, au principe où tu vis de sa passion. Si mon père, c'est son kiff, c'était de balayer, quelle vie il a eu alors? De balayer, c'était son kiff, donc il faisait ce métier-là. Au principe où tu fais le métier que tu aimes, dans cette société, tu peux être heureux. Tu peux être heureux. Forcément, on va allier ce que t'aimes avec un pouvoir financier. C'est pas négligeable.
Oui, bien sûr.
Donc forcément, de ce que j'aime, je peux rendre service à tout mon entourage. Mais quel bonheur. Quel bonheur.
Alors,
et là, en étant retraité, forcément, on n'a plus les mêmes salaires, même les investissements. Mm-hmm. C'est ce qui me gêne le plus. C'est pas ce qui me gêne le plus. On va dire que t'as vu... C'est ce qui me met le plus mal à l'aise. C'est d'avoir pouvoir aider autant de gens et plus pouvoir les aider autant qu'avant. Tu vois, c'est ça qui est contraignant un peu, on va dire, avec ces retraites.
Mais on parle de bonne humeur, mais t'es chambreur.
Mais ça fait partie de la vie, justement. Ça fait
ultra chambreur.
Ben, la bonne humeur, ça fait partie du chambrage. Moi, j'accepte d'être chambré. Après, je sais...
C'est ce que j'allais dire, il faut accepter.
Ben ouais, forcément, sinon, sinon t'as pas la bonne mentalité pour ça. Après, je sais qui chambrer aussi. Parce qu'il y a des mecs, tu vois, quand ils sont dans le trou, justement, les chambrer en...
Ouais, non, il ne faut pas les enfoncer.
Faut pas, mais les chambrer en les titillant pour le, tu vois, des fois pour leur donner le sourire, leur donner ce, des fois ça leur fait du bien des fois aussi, tu vois.
Et tu penses à qui?
Non, pas spécialement, tu vois, parce qu'il y a des mecs comme Fabrice. Des fois Fabrice aussi, des fois il jouait pas, des fois moi je l'embêtais, tu vois. Mais Fabrice, je sais quoi. En fait, moi je sais à qui je peux chambrer en rigolant et qui je peux chambrer plus modérément, tu vois.
C'était des choses difficiles à gérer dans un vestiaire.
Non, pas spécialement.
Quand tu reviens, l'ambiance, elle est plus sympa. Tu retrouves un peu plus... parce qu'ils ont dû souffrir de...
Ils ont souffert. Non, ils ont souffert. Après, ça les a marqués quand même un petit peu, parce qu'ils savaient qu'il fallait pas
reprendre une saison comme ça. Ah non, on fait pas ça deux fois, non.
Deux fois. Après, même Paul, il était différent. Même le coach, il était différent.
Bah, on apprend, en fait, de ces moments aussi difficiles.
Après, le fait que moi aussi, j'ai joué, peut-être que aussi ça lui a peut-être... Après,
il a pas
regardé mes matchs, hein, mais il a dû sûrement savoir que voilà, j'étais quand même compétitif. Donc, il m'a récupéré, et puis après,
Quand il y a une coupe qui a été gagnée, il y a quand même la coupe de l'UEFA. C'est le retour en Europe.
Ouais.
Alors, je te vois encore sourire quand on parle d'Europe. Mais ça donne du temps de jeu, parce qu'il y a plus de compétition.
C'est ce que j'allais dire, effectivement. Parce que... Paul, il a géré le truc intelligemment. Il a donné du temps de jeu à ceux qui avaient moins de temps de jeu en Coupe d'Europe. Et ceux qui avaient plus l'habitude de championnat, ils jouaient le plus de championnat. Mais à côté de ça, comme nous, on était des rageux, on s'est dit, puisqu'on a ce temps de jeu-là, on ne va pas le lâcher. On va essayer de le mettre, lui, dans la merde pour ses choix. Logique. On est des compétiteurs.
Bah oui,
Voilà. Donc, le petit peu de temps de jeu qu'on avait, ou si c'était en Coupe d'Europe, on va jouer les chiens. Et c'est ce qu'on a fait.
Ouais, c'était aller loin.
Ouais, au quart de finale, c'est ça? Et c'est Youssouf, je crois, qui Mouloumbou, qui fait un tac, qui penalty à Benfica, je crois qu'il nous sort. 2-1. Je crois un truc comme ça.
Ah oui, ça t'a marqué. Mais c'est, quelque part, c'est, ça paraît étrange de se dire que la Coupe d'Europe, c'était pour ceux qui n'avaient pas beaucoup de temps de jeu. Parce que quand on voit l'importance que ça a, la Coupe d'Europe, alors peut-être que c'est parce que c'était la Coupe de l'UEFA.
Oui, on avait un groupe de qualité aussi.
Oui.
C'est ça le problème, c'est qu'on avait un groupe de qualité.
Il fallait faire jouer tout le monde.
Il fallait faire jouer tout le monde. Donc à la Coupe d'Europe, c'est pour ça que je t'ai dit. Après, il a mis, ouais, ceux qui jouent moins en Coupe d'Europe, ils jouent plus en championnat en général. Quand tu joues le championnat, tu savais que t'allais pas jouer le jeudi en général.
Et pourtant, si on demande aux supporters un souvenir de toi cette saison-là, tu sais très bien de quoi ils vont parler.
Ouais, de ma chevauchée.
C'est ça.
Fantastique.
La chevauchée. C'est incroyable comme elle est restée dans l'imaginaire. C'est contre Lille.
Contre Lille, ouais.
Tu la racontes? Parce que j'imagine que tu as dû la raconter 500 fois.
Non, même pas. Bah, t'as vu, de nos jours, maintenant, ils te la montrent direct sur c'est YouTube. Bah, regarde ce que t'as fait.
Je l'ai fait.
Ouais, mais moi, je leur ai dit non, c'est pas moi, le ballon, il est parti tout seul. Je l'ai suivi, moi, en fait. Non, après, c'est une interception de derrière, ouais, de à 25 mètres de nos buts. Je crois que je récupère un ballon. Le premier, il vient. L'attaquant, il vient. Je crois que je lui mets une feinte de corps, je pars.
On a l'impression que tu danses, en fait.
Ouais, ça slalome un peu. Mais j'ai toujours été un joueur technique, hein, contrairement à ce que les gens ils peuvent penser. J'ai toujours eu une facilité à ressortir les ballons. Sauf qu'au bout d'un moment, tu as des coachs qui ne veulent pas que tu ressortes le ballon en prenant des risques. Après, c'est vrai que pour un défenseur, tu ne peux pas permettre certaines choses. Mais après, tu as vu, moi, des joueurs comme Thiago Silva, avec une qualité technique, normalement, ils devraient pouvoir se permettre de pouvoir sortir des ballons de temps en temps. C'est plaisant de temps en temps pour un défenseur. Oui. Parce que nous, on est coutumiers de charbonner, de tacler, d'être sale par terre pour les autres. Donc, de temps en temps, ça fait du bien. Mais après... Il y avait Edmilson à l'époque qui le faisait assez souvent. Ouais. Parce que forcément, il avait une qualité technique. Mais ma Barcelone, il l'a fait quelques fois.
Et cette saison-là, vous finissez sixième. Ça va un peu mieux. Mais on attend quand même toujours le Paris Saint-Germain un peu plus haut que sixième. Sixième, c'est...
Oui, mais on finit à combien de points de la Ligue des Champions? Je crois qu'on finit à un point.
Pas loin, mais...
Ou à un point ou à un truc comme ça. Parce que je crois qu'il nous manquait un but ou deux buts. On n'était pas loin. Donc déjà, on se rapproche de 18e à 6e, pas loin de la Ligue des Champions. Ça va un peu mieux déjà. Après, c'est vrai qu'on n'est pas dans ce qu'il faut, mais on se rapproche.
Et là, le contrat de Paul Le Guen n'est pas renouvelé. C'est Antoine Comboiré qui passe, qui devient entraîneur du Paris Saint-Germain. Ça se passe comment avec lui quand il arrive? On est à la saison 2009-2010.
Bon, après, Antoine est très directif, Antoine.
Ouais, c'est un entraîneur exigeant.
Ouais, exigeant et... Après, le problème d'Antoine, c'est que ouais, peut-être que joueur au Paris Saint-Germain, avoir entraîné la réserve du Paris Saint-Germain...
C'est une sacrée pression. Hein.
Revenir au Paris Saint-Germain dans l'équipe première. Donc la pression, elle était au maximum, c'est sûr. Ah, oui, parce que moi, je vois le Antoine que je vois maintenant. Il y a des années qui sont passées, mais je vois le Antoine maintenant. C'est sûr qu'il y a toujours sa part d'exigence et de folie. Mais le Antoine que je vois maintenant, qui est assez calme, assez... Il a pris de l'âge aussi, qui est plus calme.
Et puis c'était là maintenant, c'est pas Paris. Quand on est à Paris, c'est toujours parti.
Voilà, on est toujours. Donc ça directif.
Et puis là,
faut aller dans son sens. Sinon, c'est mort.
Là, il y a aussi un recrutement important. J'allais Erding. Il y a du monde qui arrive.
Comme chaque année.
Comme chaque année. Et finalement, toi, tu vas beaucoup jouer. Alors c'est un peu dû à la longue blessure de.
De Papus.
De Papus.
Ouais.
Mais
peut-être
beaucoup,
que je l'aurais bougé aussi. Ouais, j'en ai bu. Malheureusement, oui, c'est le malheur des uns, il fait le bonheur des
oui,
autres,
non,
malheureusement.
Il
ouais.
y a un poste qui se libère.
Ouais, qui se libère, ouais. Il aurait pu faire jouer quelqu'un d'autre, il m'a
c'est
fait
ça.
Jouer moi. Ouais. Ouais, ouais.
Donc, encore une fois, c'est la volonté, c'est le travail.
On lâche pas l'abnégation. Je pars pas d'entrée, mais je sais que je vais jouer. Vous en faites pas pour moi. Comme je t'ai dit depuis le départ, tu seras pas professionnel. Mais si, je serai professionnel. Mais donc, je vais jouer. J'ai joué, ouais. J'ai joué un maximum. Lui aussi, il alterne Coupe d'Europe.
Ah, bah oui, c'est normal.
Championnat. Mais des fois, des fois, lui faisait un peu moins tourner. Des fois, c'est vrai que les mecs qui jouent en Coupe d'Europe, des fois, ils jouent aussi un peu en championnat. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup joué.
Alors, c'était une saison où ça se passait, j'allais dire, un petit peu mieux. Mmh. Alors, ça se passait bien avec les supporters. Le Parc des Princes, c'était votre jardin, c'était votre chez-vous. Ça reste pour toi un stade unique?
Malgré, excusez-moi les Marseillais, je suis désolé, malgré tout ce qui se passe à Marseille cette année, avec un engouement incroyable, avec des supporters cette année incroyable, ils ont combien? Ils ont 80 000 chaque week-end pour un match de championnat, c'est magnifique. mais 45 à fond à Paris, impossible de rivaliser. Impossible de rivaliser.
Mais l'ambiance reste... que tu as connue, toi, c'était...
Invraisemblable. Mon premier match que je te, que, où je joue, que je te dis au parc, c'est à, contre Marseille. Mm-hmm. On a mis peut-être 10 minutes avant de jouer. À cause des fumigènes, les banderoles, c'était un vrai stade. Un vrai stade. Malgré l'ambiance qu'il y a à Marseille, hein, mais,
ah ouais, je comprends.
Mais 45 000 bien fermés à Paris, quand ça chante, tu t'entends pas, c'est mort. C'est trop.
Cette saison-là, vous gagnez quand même une Coupe de France. Est-ce que c'est pour toi un des plus grands souvenirs ou c'est quelque chose que tu as le sentiment de regarder de l'extérieur?
Non, forcément, tu gagnes une coupe. C'est... Déjà, l'objectif, c'est de jouer.
Aller au Stade de France.
Déjà, aller au Stade de France, dans la mesure où j'en ai déjà perdu une avec Nice.
Oui.
Je perds une Coupe de la Ligue avec Nice, donc je reviens une deuxième fois avec Paris.
Oh la vache.
Sinon, c'est pas possible, c'était une souffrance déjà la première. Donc on reçoit Monaco. Belle équipe en plus, avec l'autre tête de mort de Néné, là, qui nous rejoint l'année d'après. Donc, je commence pas titulaire, je rentre à la fin, je crois, carrément. Qui c'est qui marque? Guillaume qui marque, on gagne 1-0. Après, le truc, c'est quoi? C'est que Stade de France, j'ai fait venir toute ma famille, tous mes amis.
C'est magique, ça.
C'est beau. Et tu gagnes. Mais mon fils, mais ma fille. Ah ouais, il y avait tout le monde. et tu gagnes. Donc, j'ai réussi à ramener mon fils sur le terrain. J'ai payé un nombre incalculable de places. Donc, il y a la prime. Tu te dis, ah si, il y a la prime en plus. Non, mais forcément, ça fait partie des beaux moments. Quand il y a un accomplissement et quand il y a la joie de... Quand tu vois la joie de tous tes coéquipiers au final de ce résultat-là, c'est ça les plus belles choses. Après, le trophée, ça reste un trophée.
Oui.
Mais d'avoir vécu ces moments-là, d'avoir partagé ces moments-là avec ces personnes-là à ce moment-là, c'est ça qui est magnifique. Après, ouais, comme je dis, on disait, c'est Antoine, c'était, je crois, c'est son premier titre, Antoine. On lui a dit quand même, tiens, t'as fait gagner...
Tiens, c'est cadeau.
Au moins, tu pourras dire ce que tu veux. Mais on restera dans ta mémoire à toi. Après, derrière, il en gagne une deuxième avec Nantes, donc peut-être ça devient un habitué des Coupes de France maintenant. Mais ouais, ça reste beau. Et c'est pas négligeable. Chaque année, franchement...
Parce que c'est important, même si, entre guillemets, ça peut rester que la Coupe de France, c'est hyper important, la Coupe de France.
C'est ça, j'entends encore en 2023, c'est la Coupe de France est décriée, mais... Ça part de l'amateurisme du plus petit club amateur jusqu'au plus grand club professionnel. Au bout d'un moment, tout le monde la joue. Moi, en étant entraîneur, j'ai la joue au mois de juin. Donc, forcément, c'est la coupe de tout le monde. Tu vas Mais regarde,
c'est encore plus beau de la gagner.
Il y a des surprises. Forcément, il y a des surprises. Ouais. Donc, s'il y a des surprises, c'est qu'au bout d'un moment, l'envie elle passe au-dessus de ce professionnalisme qui est pris un peu à la légère. Donc, ça reste des petites surprises, Regarde Versailles, château de Versailles, qui va se retrouver en demi-finale d'une Coupe de France. Pour ces mecs-là,
ça reste ça pour toi la.
Mais imaginez ces mecs-là. Aïe, ils ont fait pratiquement l'un des plus beaux trucs de leur carrière. Parce qu'il y a des mecs, ça se trouve, ils vont plus jouer l'année prochaine.
Et toi, tu l'as gagné. T'as pas fait demi-finale, toi, tu l'as gagné.
Je l'ai gagné.
Avec le Paris Saint-Germain.
Et j'en ai perdu une, mais je l'ai gagné aussi. Après, c'est l'un des seuls titres que j'ai aussi.
Bravo.
Merci à vous.
Pour ta dernière saison, tu joues clairement peu. Hein, ça fait
non, je joue plus carrément.
Oui, c'est 6 matchs dans toute la saison.
Non, je joue plus carrément.
D'accord.
Mais après, comme je t'explique, je vais te revenir sur ce. Comme je t'expliquais, Antoine, il est très. C'est un caractériel. Quand il a décidé, il a décidé. Même il a tort, il a décidé, ça sera comme ça. Donc au début de saison...
Quand on est un décideur, il faut décider.
Ouais, mais après, il y a des fois... On peut prendre le proverbe aussi, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais comme Antoine, il est comme ça, et il est buté, malheureusement. Il vient me voir en début de saison, on est aux États-Unis, donc fin de saison, on est en stage aux États-Unis. Un entretien individuel pour préparer la saison d'après. Il fait à chaque fois, donc Ludo passe avant moi. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Ludo? Ah ben, il m'a dit que ça allait être compliqué l'année prochaine, qu'il aimait pas mes séances d'entraînement, mais que voilà, bon, bah, comme Ludo Joly quand même.
Oui.
Donc je suis là, mais que ça allait être compliqué plus. Ah toi, il t'a dit ça.
Et là, toi, tu te dis, oh là là,
mais qu'est-ce que tu vas me dire à moi alors? Puisque moi, tu vois, moi, Ludo, on était un peu fourrés à, ensemble, les échauffements avec bon, les vieux, tu connais, Maqué. Bon, bref, oui, je suis content de toi cette saison. Content de toi cette saison, tu fais une bonne saison, tu joues. Par contre, l'année prochaine, on veut aller chercher un cran plus haut. Logique, on va chercher un cran plus haut. Je risque de ramener de la concurrence. Donc, moi, je ne compterai pas sur toi la saison prochaine. Si tu peux trouver un club, tu peux y aller, je ne m'empêcherai pas, ça serait mieux, ok. Mais j'ai joué les trois quarts de la saison, là, Antoine. Oui, oui, c'est vrai, j'ai besoin de toi, mais on va te chercher encore plus haut l'année prochaine, je compte ramener un défenseur. Bon, d'accord, j'ai dit, écoute, moi, c'est simple, Antoine. On reste dans le contrat.
Je ne bouge pas.
Non, si je trouve un challenge plus intéressant, pas plus intéressant, parce que tu peux pas te faire plus intéressant et qui va chercher par Lyon, un challenge intéressant, ok. Si je m'y retrouve financièrement et un challenge intéressant, je vais partir, c'est pas un problème. Mais à côté de ça, si je trouve rien d'intéressant, je vais être là toute la saison. Tu vas pas avoir un boulet sur le...
Oui, parce que c'est pas...
Parce que je suis un compétiteur.
Ouais.
Je dis la seule chose que tu pourras pas m'enlever, Antoine, l'envie de te prouver que je peux jouer tous les week-ends. Et je serai là à l'entraînement tout le temps. Ça, tu pourras pas me l'enlever. Après, tu feras tes choix, c'est pas un problème. Tu es mon coach, je respecterai tes choix jusqu'au bout, mais ça, tu pourras jamais me l'enlever. Ok. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, je faisais des entraînements, j'étais bon. Les matchs amicaux, j'étais bon. Jusqu'à des mecs dans le vestiaire, mais qu'est-ce que tu l'as fait, Antoine? J'ai rien fait du tout. J'ai rien fait du tout, il a décidé que c'était comme ça. Jusqu'à un jour, il vient comme ça, du jour au lendemain, il parle pas, du jour au lendemain, on est en Coupe d'Europe à quart parti, la Live, là, on est deux. Je vais donner l'équipe, il lève Samy Traoré, eux. Antoine, ça fait 3 mois que j'ai pas joué. Tu me préviens même pas, prépare-toi, gamin. Même si j'ai 33 balais, prépare-toi, gamin. Antoine, surprise, c'était pas mon anniversaire pour ça. Ouais, tu vas jouer, j'ai confiance en toi. Ouais, bah merci Antoine, d'accord. Mais derrière, ce qui se passe, c'est que c'est un bon match en plus. Ben, on fait match nul, je crois que c'est... Ouais, on fait match nul. On fait match nul là-bas. Il caillait, mais ce qui, je me souviens, Peggy, il avait mis. Je voyais que ses yeux à Peggy, c'est là que ça tombait un petit peu. Il avait froid. Pas... Il y avait qui? Papus aussi, il était là, je crois. Il avait mis lui. Alors lui
le collant.
Le collant, les gants, moins 18. Les mecs sur le banc.
Ah, c'est sympa de jouer par moins 18.
Il m'envoyait au feu. Il m'envoyait au feu. On fait un bon match, je crois, on fait match nul, je crois, on gagne, on fait match nul, je crois. Le lendemain, décrassage. Devant tout le monde, je tenais à féliciter Samy, il a fait un très bon match. On a fait un bon match hier, mais je tenais à féliciter Samy, il a fait un très bon match, ça n'a pas été facile dans le froid, il revient, il n'avait pas longtemps, il n'avait pas joué, mais il a été bon. Mais c'est pourquoi tu ne fais pas jouer alors? Mais ouais, c'est après qu'Antoine, c'était la dernière année, c'était plus compliqué. Comme je t'ai dit, il est resté sur ses positions.
Et tu vas à la fin de ton contrat?
Ouais, à 35 ans.
Et tu vis comment cette séparation avec le Paris Saint-Germain?
Comme toute fin de contrat, qui n'est jamais facile de laisser un club où tu as passé des bons moments. Après, tu t'es préparé. Après, tu es footballeur, tu sais pertinemment qu'il y a dans la vie, il y a un début, il y a une fin. Donc, tu sais pertinemment que ça va se finir, puisqu'il n'y a pas eu de prolongation de contrat. Mmh. Après, il y a moi, déjà, d'où la position où j'étais, j'avais déjà entendu que les Qataris allaient racheter. Donc, forcément, tu te dis, si je veux partir pour un an, pour faire quoi? Parce que derrière, il y a du monde. C'est plus du monde qui va arriver, là. C'est de la vraie concurrence. Mmh. À 35 ans, je vois pas l'utilité. Peut-être pour accompagner, peut-être. Mais accompagner pourquoi? Puisque dans la transition, il y avait encore des joueurs comme Papus, qui étaient encore un peu plus jeunes que toi. Donc, ils pouvaient faire cette transition, eux, tu vois. Donc, 35 ans, tu te dis, bon, moi, il me reste peut-être un an, deux ans de football. Autant que j'aille trouver peut-être un truc où, si j'ai un truc intéressant pour jouer, je retourne.
Bienvenue chez toi.
Je retourne chez moi spécialement à Créteil. Donc Créteil, on n'est pas loin de Paris. Donc je revenais encore de temps en temps leur donner un petit coup de bonjour, tu vois, pour les voir de temps en temps. Donc j'ai vu un peu cette transition avec les Qataris. Et de fil en aiguille, c'est là que j'ai côtoyé mon pote, là, qui était déjà entraîneur et puis qui m'a mis dedans petit à petit. Puis je me suis
Parce
dit.
Parce que c'était important pour toi de transmettre.
Ben forcément, c'est ce que j'étais dans la continuité. C'est ce que je disais. Lui qui me. Je venais le voir sur ses séances. Et de là, il me disait, mais ça ne te dit pas tout. Et puis, c'est comme ça que c'est venu. Et puis, on m'a proposé de faire agent de joueur. Je ne me retrouve pas là-dedans. Ce n'est pas ma mentalité. Et ce qui m'a rapproché le plus de ce gazon vert, du terrain, de ce que j'aime, et du vestiaire, parce que j'aime le vestiaire, c'est l'entraîneur.
Et c'est toujours la vie en groupe que t'aimes.
Il se passe, il y a une vie dans le vestiaire.
Mais oui, bien sûr.
Il y a des choses qui se passent dans le vestiaire que tu ne retrouveras jamais, tu ne te retrouves pas. J'ai traîné dehors, j'ai traîné avec des potes, je retraîne avec des amis à moi. Il y a ces trucs-là, mais tu peux. Le vestiaire, c'est particulier. Parce que vous êtes tous sous la couverture du football, vous aimez tous la même chose en étant, vous êtes tous des gamins. C'est des gamins, gamins qui n'ont même pas grandi, qui font un sport qui est super médiatisé, mais ça reste des gamins. Donc c'est vrai que tu leur demandes des fois d'être exigeants et d'être droit comme un i, alors qu'il n'est même pas formé, le petit. Donc c'est vrai qu'il y a une vie là-dedans qui est intéressante. Après, ça reste footballistique. Après, dans un vestiaire, t'as 3-4 amis, c'est du collègue de travail aussi, mais on se complexe là-dedans, c'est bien, franchement. Et là, par rapport à ce que je fais maintenant, ouais, je m'y retrouve encore un peu, puisque je m'entraîne avec mon équipe.
Toujours un petit peu de football. Il reste quoi en toi de tes années Paris Saint-Germain ?
Tellement de choses. C'est quoi, hein ? C'est ce que je leur dis. Je dis, à 2023, vous aurez dans des photos à moi encore.
Oui, bien sûr.
Ouais, donc voilà. Non, mais non, après, c'est... Ah, quand t'as porté le... Allez, c'est gravé, en fait. T'as vu qu'une fois que t'as porté le maillot du Paris Saint-Germain, c'est gravé à vie. Et j'étais à New York, je me marchais dans la rue. Samy Traoré. Non, joueur du Paris Saint-Germain. Non, mais là, je viens pour être tranquille, ils arrivent à me reconnaître, toi, t'es sérieux? Donc, t'as vu, ça veut dire qu'à New York, après, quand on avait fait notre stage, c'est vrai qu'après, ils ont une communauté là-bas de supporters aussi. Donc, t'as vu, t'es marqué au fer rouge à vie. C'est le Paris Saint-Germain. J'ai fait Nice, Auxerre, Créteil. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, il n'y a pas l'ancien joueur de Nice, il n'y a pas l'ancien joueur de Créteil, c'est Paris Saint-Germain qui prime au-dessus. Donc, tu vois, c'est que t'es marqué au fer rouge. Après, c'est des belles années. Déjà, jouer au football pour ta ville. Le manque, c'est le même manque que moi j'ai, c'est qu'eux, ils l'ont encore actuel, c'est pas avoir ramené une coupe à cette ville.
Tu resteras toujours amoureux du Paris Saint-Germain ?
C'est marqué au fer rouge. Je les suis, forcément, c'est mon club. Je suis de Paris, forcément, tu les suis.
Eh bien, écoute, Samy Traoré, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Ces confidences, merci pour ce moment, pour ces...
C'est moi qui vous remercie.
Retours...
En arrière. C'est du bien.
En tout cas, c'était des... certains très bons souvenirs.
Oui, que des bons souvenirs.
Merci beaucoup. On se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Histoire de Parisien. Si vous aimez ce programme, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute et à lui donner 5 étoiles. Merci beaucoup, à très bientôt.